Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, maire de Pau, président du Modem. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour,
bonjour
Adrien. En fin de première partie dans notre rubrique La question en plus, c'est Claire Crépère, François Bayrou, du syndicat enseignant UNSA qui vous interpellera à propos d'une disposition de la loi Blanquer sur l'école. Et puis nous retrouverons en fin d'émission, comme d'habitude, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL pour questions nettes, vos commentaires, vos questions, vos interpellations à François Bayrou. Vous pouvez toujours réagir en direct, hashtag le grand jury. Alors François Bayrou, à la veille de la dernière présidentielle, les Français, qu'ils soient commentateurs politiques ou pas, étaient tentés de se demander ce que vous alliez devenir. Une poignée d'élus, un parti déserté, des finances asséchées, on annonçait l'élection de 2017 comme votre dernier tour de piste. Et pourtant, il y a presque 2 ans, jour pour jour, c'est quasiment un anniversaire, le 22 février 2017, eh bien vous avez renoncé à briguer le poste suprême pour rallier Emmanuel Macron. Il serait le candidat du centre, donc votre candidat, et tant pis si vous n'aviez pas toujours pensé, pas toujours dit, le plus grand bien de lui. Bonne pioche, puisque votre poulain l'a emporté, et vous voilà revenu en bonne place dans les allées du pouvoir. Un groupe parlementaire conséquent, 3 ministres, et pas des moindres, et en prime, dit-on, l'oreille plus qu'attentive du président de la République, au point de rendre jaloux certains marcheurs qui considèrent votre influence bien au-delà de votre poids politique réel. Et puis surtout, ce soutien à Emmanuel Macron, François Bayrou, ne se fait-il pas au détriment de réelles convictions, de vos convictions, sur l'implication nécessaire des corps intermédiaires, des syndicats, pourtant enjambés régulièrement par le chef de l'État, sur la maîtrise des déficits auxquels vous êtes attachés depuis toujours et qui ne semblent plus vraiment une priorité du gouvernement, ou encore sur votre souci d'une République morale et exemplaire, aujourd'hui bien mise à mal par le feuilleton de l'affaire Benalla. À force de confiance, de constance, mais aussi de compromis, ne vous êtes-vous pas trahi, François Bayrou ? Nous en parlerons, vous répondrez bien sûr à toutes ces questions dans cette émission, nous avons du temps, mais tout d'abord, revenons sur le grand débat national et les solutions pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Guillaume Roquette vous pose la première question.
Votre amie Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, propose ce matin dans le JDD de faire payer l'impôt sur le revenu à tous les contribuables, alors qu'aujourd'hui une majorité de Français ne le paye pas. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Est-ce qu'on peut dire en préalable qu'une réforme fiscale, ça ne s'improvise pas vraiment ? C'est pas sous cette forme.
C'est une façon
et
de dire
puis,
que c'est pas une bonne
deuxièmement,
idée.
Ça crée une polémique énorme. Parce qu'on ne regarde pas la réalité comme elle est. Parce que, en réalité, les contributions de tous les Français à l'impôt, tous sans exception, elles existent. Tous les Français paient la TVA quand ils vont faire leurs courses, quelle que soit leur situation. Et surtout, s'agissant des prélèvements sur le revenu, tous les Français paient la CSG.
C'est exactement ce que vient de dire Matignon pour recadrer la ministre. Vous considérez donc qu'elle a fait une erreur ?
En aucune manière. D'abord, je suis persuadé qu'elle a évidemment averti des déclarations qui étaient les siennes.
Pas vraiment.
On voit bien.
Visiblement. Ce n'est pas ce que dit Matignon ni l'Élysée.
Puisque Matignon nous dit que la piste d'un impôt sur le revenu universel n'est pas à l'étude.
Eh bien, c'est une bonne déclaration qui met les choses en place, mais... Moi, je connais Jacqueline Gourault, donc je sais que sa réflexion est une réflexion, naturellement, dans un cadre plus général et solidaire.
Donc, existe
mais
un
je vais un peu plus loin. Non, mais j'ai défendu, tout le monde le sait ici, l'impôt sur le revenu pour tous dans des élections présidentielles précédentes. Pourquoi ? Parce que je trouve que cette idée selon laquelle il y a la moitié des Français, comme Guillaume Roquette l'a dit, qui ne paieraient pas l'impôt, est une idée fausse. Et que donc c'était une manière symbolique de remettre de l'équilibre dans ce sujet.
Et aujourd'hui ?
J'ajoute que chaque fois que j'ai proposé cette idée, j'ai ajouté à condition d'augmenter le revenu de base des Français de la même somme. Parce qu'on ne va pas amputer le revenu des Français qui sont dans le bas de l'échelle des revenus simplement pour gagner d'ailleurs une poignée de contributions fiscales.
Et vous dites aujourd'hui...
C'est pas ça la question.
Non,
je répète, parce que vous n'avez pas l'air d'avoir entendu.
Je vous écoute.
Cette idée, elle a considérablement progressé dans les années qui viennent de s'écouler. Pourquoi ? Parce que la CSG est payée par tous les Français. La CSG et le CRDS. La CRDS.
Remboursement de la dette.
Sont payés par tous les Français. Aujourd'hui, à concurrence de plus de 10% des revenus. De tous les revenus.
Mais donc, est-ce qu'il faut faire...
Y compris les retraites, y compris le chômage, y compris... Et donc, ceux qui poussent de hauts cris en disant « Mon Dieu, mais quelle horreur d'avoir formulé une phrase comme ça », ne regardent pas la réalité comme elle est. Deuxième question derrière celle-là. Comme la gauche l'a proposé depuis longtemps, Thomas Piketty en particulier, qui est un économiste tout à fait digne d'estime, est-ce qu'il faut refaire de la CSG ou d'une fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu le premier échelon de la contribution fiscale pour tous les Français ? C'est une question qui se pose.
Et votre réponse ?
Moi, je trouve que c'est une idée intéressante, à condition qu'on regarde de notre côté, à l'autre bout de l'échelle, quel est le traitement juste des niches fiscales.
Donc on remet à plat toutes les niches fiscales aussi.
Parce qu'il y a des questions qui se posent sur les niches fiscales, à juste titre, parce que les niches fiscales, c'est aussi une façon d'alléger l'impôt.
C'est un serpent de mer, d'alléger l'impôt. On en parle systématiquement, et les gouvernements qui se succèdent ne s'y attaquent pas réellement.
Eh bien, vous voyez que je suis devant vous pour qu'on reprenne ce chantier. Et vous voyez que vous avez ainsi un plan, une vision. Et ce plan et cette vision disent, au fond, on a besoin d'un impôt qui soit très large, équitable, et qui soit équitable en bas de l'échelle des revenus, et en haut de l'échelle des revenus. Et ceci est un projet qui ne se résoudra pas en quelques semaines. Mais l'avantage du grand débat, qui est une œuvre démocratique immense, on en dira un mot
peut-être, on va en parler
dans une minute.
Et pour que ce soit...
L'avantage du grand débat, c'est qu'il peut permettre d'ouvrir des chantiers de longue haleine.
Alors, Guillaume Roquette,
Et pour que cet impôt soit équitable en haut, est-ce qu'il faut revoir d'une manière ou d'une autre la fiscalité sur le capital et l'ISF?
Alors vous savez ma position qui n'a jamais changé sur l'ISF, que j'ai défendue y compris contre le gouvernement quand il a pris des décisions qui étaient les siennes, c'est que je trouvais qu'il était absolument fondé d'exonérer de l'ISF les fonds qui s'investissent dans l'appareil productif, ceux qui permettent de construire des usines, l'argent qui permet d'aider des entreprises ou d'investir dans les entreprises.
C'est le cas aujourd'hui.
Cela, il était absurde de le frapper alors que nous en avons le plus grand besoin. Autre chose était le périmètre de cette exonération. Et selon moi, le périmètre de l'exonération, je l'ai dit au moment où elle a été prise, a été trop large.
Et est-ce que ça peut encore bouger ?
Tout peut bouger.
Est-ce que vous le souhaitez ?
Le président de la République a dit que tout pouvait bouger. Mais vous voyez bien que il serait absurde et nuisible de prendre des décisions au coup par coup dans l'improvisation et de ne pas avoir un plan général qui permette de répondre à cette question-là. Il y a une autre question.
Donc vous appelez de vos voeux à une grande réforme fiscale, François Bayrou.
Oui, j'appelle de mes voeux, je souhaite, je pense nécessaire qu'on remette à plat les questions de fiscalité avec les Français.
Est-ce qu'il faut une nouvelle tranche d'impôt supplémentaire pour les hauts revenus ? C'est ce que propose aussi Jacqueline Gourault ce matin dans le journal du
dimanche.
Elle n'en serait pas choquée, dit-elle.
Lorsque je parle des niches fiscales, je ne parle pas d'autre chose que de cette question-là, parce que les niches fiscales, c'est...
Ça veut dire une augmentation d'impôt.
L'impôt rendu le plus équitable possible et le plus large possible pour que les citoyens contribuables consentent à l'impôt. Vous voyez bien que tous les Français qui sont devant nous n'y comprennent rien à tout ça. Ils sont dans le désarroi, ils ont le sentiment que les impôts sont de plus en plus lourds, qu'on ne sait pas ce qu'on en fait. C'est le cas de la fiscalité écologique, par exemple. Et le grand débat, que je considère comme une œuvre démocratique sans exemple, sans précédent et sans exemple dans les autres pays, notamment européens, dans toutes les démocraties du monde, c'est une réalité extrêmement forte.
On est entré dans le mouvement
nous avons fait
par une taxe, la taxe carbone.
Oui.
Est-ce qu'on peut en sortir par l'impôt ?
Non. À Pau, nous avons fait trois réunions. Jusqu'à maintenant, on va en faire cinq, avec plusieurs centaines de personnes chaque fois. Chaque réunion durant 6 heures de temps. Parce qu'il y a un appétit, un besoin de comprendre, d'expliquer que... qu'on soit comme des citoyens qui partagent l'idée de l'avenir. Et donc, ce que je souhaite, c'est que ces questions soient mises à plat, clairement, enfin, expliquées aux Français.
Mais vous nous dites, par exemple, sur l'ISF, qu'Emmanuel Macron est prêt à bouger. On ne l'a pas entendu dire ça, François Bayrou.
Ou plutôt entendu dire le contraire, en disant...
Moi, j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il n'y avait aucune question taboue. Aucune question taboue.
Y compris sur l'ISF.
La seule chose... pour laquelle je lui recommanderais d'être inflexible, c'est les fonds qui s'investissent dans les entreprises et l'appareil productif. On a besoin d'argent pour construire des usines. On a besoin d'argent pour des centres de recherche. Notre économie qui est le support du projet de société dans lequel nous vivons, cette économie-là, elle est... fragile et insuffisante. Et il faut donc la soutenir. Et l'investissement, c'est le seul moyen concret de la soutenir.
Alors vous avez
et donc
parlé.
Vous voyez bien que je rappelle les principes. Ce sont ces principes-là sur lesquels, à mes yeux, il ne faut pas revenir, qu'il ne faut pas remettre en cause.
Alors, vous avez parlé des grands débats que vous organisez à Pau, notamment. Il y en a partout en France. Il y a des propositions qui émergent. On va en prendre 5, concrètement. Vous allez nous dire si vous êtes pour ou contre, en un mot, François Bayrou, nous reviendrons plus
en un mot, ça, je ne vous le promets
alors,
pas.
Alors, on va tenter.
Je ne réponds pas par oui ou par non à des questions complexes.
La réindexation des retraites sur l'inflation, pour ou contre ?
Je pense que c'est une piste, oui.
Les allocations familiales dès le premier enfant ?
Oui, mais à condition qu'on n'oublie pas ce que sont les allocations familiales, c'est-à-dire un moyen de soutenir quelque chose qui est infiniment précieux et dont on a l'air... de ne pas prendre la vraie mesure, qui est la démographie du pays. Nous avons franchi, ces dernières années, un seuil qui est un seuil dangereux.
Sur la natalité.
Qui est que nous sommes descendus au-dessous du seuil de renouvellement de la population française. Oh. Et pour moi, qui depuis très longtemps suis acquis à l'idée qu'un pays qui a confiance en lui, c'est un pays qui fait des enfants, l'Europe a grand tort de négliger cette
alors,
question.
Vous êtes plutôt
les déséquilibres démographiques de la planète sont un danger et un risque, et donc je suis pour qu'on réfléchisse au soutien réel à la démographie qu'il faut apporter.
En matière d'institution, rendre le vote obligatoire, François Bayrou, pour ou contre ?
Vous savez bien que j'ai soutenu cette idée dans des élections. Ouais. Précédente, oui, c'est une piste, mais elle pose une question. Et pour avoir fait le test plusieurs fois devant les salles du grand débat, quand on dit vote obligatoire, tout le monde lève la main, mais quand on donne l'autre version versant du sujet, on lève moins la main, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui tout de même ne votent pas ?
La sanction.
On donne une amende.
Oui.
En Belgique, il y a une amende.
Oui.
De mémoire, c'est de l'ordre de 80 euros. Est-ce qu'elle est appliquée ? Je ne sais pas. Mais vous voyez bien, alors, d'autres idées avaient été avancées. Que si on ne participe pas à l'acte citoyen qui est le vote obligatoire, on perd un certain nombre de droits. Mais vous voyez bien que ce n'est pas des questions qui se traitent d'un claquement de doigts. Parce que si quelqu'un ne veut pas voter, qu'est-ce que vous lui faites ? Vous n'allez pas le mettre en prison. Et donc, pour avoir développé... Je ne suis pas le seul à avoir soutenu le vote obligatoire. Je me souviens que M. Fabius avait aussi soutenu le vote obligatoire à la même époque que moi. Mais j'essaie de ne pas avoir de position trop simple. J'aime bien qu'on réfléchisse au coup d'après.
Autre proposition qui revient de manière récurrente, quasiment systématique, supprimer les avantages des anciens présidents de la République.
Oui, je suis en désaccord. Je trouve que quelqu'un à qui le pays a confié la responsabilité de son destin pendant des années, et souvent dans des circonstances difficiles, évidemment, il ne retrouve pas du boulot ou des revenus en claquant des doigts. Et donc, on a déjà supprimé, ou on propose de supprimer plusieurs de ces avantages-là. La présence au Conseil constitutionnel, par exemple, qui en effet est une question qui peut se poser. Mais je pense que, comme dans toutes les démocraties du monde, sans exception, quelqu'un qui a assumé les destinées du pays, c'est quelqu'un qui, à qui le pays doit garantir qu'il n'ait pas de soucis pour sa vie ultérieure.
Enfin, dernier item.
Mais il y a évidemment sans doute des avantages ou des privilèges qu'il convient de regarder.
On vous entend sur ce sujet. Dernier item, le référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Est-ce que vous êtes, comme le Premier ministre, eh bien, pas forcément d'accord avec cette proposition, un peu inquiet ?
Moi, je rappelle une chose. Dans la Constitution, ce référendum existe. Jamais été utilisé. Parce que, d'abord, personne ne l'a présent à l'esprit. Et deuxièmement, parce qu'il y a un seuil de 4 millions et quelques de signatures à obtenir, 10% du corps électoral, et que c'est un seuil très élevé. Je pense qu'on peut travailler sur ce seuil.
Sans aller vers le RIC, c'est plus répandu.
Excusez-moi, il existe, ça s'appelle Paris.
Le référendum d'initiative populaire.
Voilà, il s'appelle RIP.
Oui. Donc on abaisse le seuil.
Et honnêtement, je préfère le C, citoyen ou civique, au P qui ne veut pas dire grand-chose. Mais si on travaille sur la Constitution, oui, en effet, on peut adapter cette procédure d'un référendum soutenu par les citoyens. Ça ne veut pas dire garantie d'être accepté. On peut travailler à cette procédure pour l'avenir.
Guillaume Roquette.
Ce RIC ou ce RIP, c'est l'une des revendications des Gilets jaunes. Ils étaient un peu plus nombreux hier. Le mouvement a démarré il y a 100 jours. 46 600 selon le ministère de l'Intérieur. Est-ce que selon vous, ce sont encore les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes qui manifestent, c'est-à-dire des gens qui effectivement ont des revendications qu'on connaît depuis le début, ou est-ce que le mouvement a été récupéré ?
Je pense que dans leur majorité, oui. Alors il y a une partie de ceux qui sont dans les défilés qui cherchent la bagarre, qui cherchent à attaquer les bâtiments publics. Ça s'est fait dans toutes les villes, y compris dans la mienne. Qui cherchent ou qui rêvent ou qui croient qu'ils vont pouvoir prendre la Bastille. Il y en a. Et ceux-là sont violents et leurs comportements sont inacceptables et les Français les supportent de moins en moins. Et puis il y a une autre partie qui, je crois, est tout à fait dans la logique de la protestation contre quoi ? De la protestation contre le modèle de société dans lequel nous vivons.
Et pourquoi ils ne s'arrêtent pas au grand débat et supposé répondre à leurs angoisses ?
Ben parce qu'ils participent au grand débat, en tout cas à Pau, pas à tout. Ils ont participé aux deux premières séquences. La première séquence était ouverte, sans thème imposé. Ils sont venus nombreux, ils ont participé. Bien qu'ayant annoncé à l'avance qu'ils ne participeraient pas, ils sont venus, ils ont participé. Le deuxième, c'était la vie démocratique, citoyenne. Le troisième, l'écologie, il n'y en avait pas. Ils n'étaient pas là. L'écologie, la protection de la planète, le durable, ça a duré cependant 6 heures, c'était très intéressant.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec le Roquette qui réclame par exemple l'interdiction de manifester pour les manifestations non déclarées ?
Bon, je ne veux pas dire des choses désagréables, Laurent Roquette est allé leur apporter son soutien.
Bon, il a eu tort
au début. Et puis après, bon, disons qu'il y a comme une contradiction entre les manifestations publiques de soutien et puis après oui, on peut travailler sur ces sujets d'ordre public. L'ordre est un besoin fondamental des êtres humains et des sociétés. C'est pas une chose contraint, c'est la vie. Si on n'a pas d'ordre, la vie devient impossible.
Sauf s'il y a des débordements chaque semaine.
Et c'est pourquoi, oui, en effet, il faut de la sévérité, il faut soutenir les pouvoirs publics et les forces de l'ordre, et les soutenir non pas seulement de manière lointaine, mais leur apporter le
sans
soutien
interdiction de
précieux.
Pour
on est frappé, François Bayrou, par le contraste entre les attaques, les insultes très vives en direction du président de la République dans certains de ses cortèges, et le relativement bon accueil dont il a été bénéficiaire hier au Salon de l'Agriculture. La journée s'est bien passée pour Emmanuel Macron. Il est resté 14 heures sur place. À quoi ça tient? Comment ça se fait que le président hérisse tant le pays
et réussit à calmer une journée d'attaque? Quand vous dites hérisse le pays, c'est un a priori. C'est vous qui le dites.
Il n'y a pas de problème entre Emmanuel Macron et
le pays. C'est vous qui le dites. Il y en a eu.
Il n'y en a plus.
Il y en a eu. Je pense que le grand débat a été une opération formidable de rétablissement de la stature et de la personnalité du président de la République aux yeux des Français. Pourquoi ? Parce qu'il est de bonne foi. Vous savez, les écrans de télévision que vous fréquentez plus que moi, les écrans de télévision ne mentent pas. Ce que les Français voient quand Emmanuel Macron parle avec leurs concitoyens au Salon de l'Agriculture, avec un retraité, avec ce jeune, ça m'a tellement ému dans la réunion des jeunes, ce jeune dyslexique qui est venu dire ce que c'est que ces handicaps qu'on subit sans y être pour quoi que ce soit. Et là, si vous regardez son regard, c'était un regard ému, de vérité. Pas pour faire semblant, il n'y a pas de communication dans tout ça. Et donc, oui, au début de l'automne, moi j'étais très inquiet parce que je voyais bien que les Français ne reconnaissaient pas ou ne reconnaissaient plus le président de la République.
Et ce lien s'est retissé, vous diriez, aujourd'hui.
Ce mouvement démocratique-là, parce qu'il a été au contact direct des Français, a changé ce statut du président de la République.
Vous-même,
cette réalité du président
vous-même
de la République.
Vous-même, vous avez retrouvé le...
Non, parce que j'ai toujours su, cru et dit que c'était comme ça qu'il était profondément.
Vous n'avez jamais eu de doute.
Je n'ai jamais...
Quand vous lisez... François Ruffin, qui est député de la France Insoumise, vient de publier un livre, Ce pays que tu ne connais pas. Il a été étudiant lycéen avec le président de la République à Amiens. Et il écrit: vous êtes le fruit, en s'adressant à Emmanuel Macron, d'une ségrégation sociale hors du peuple, loin du peuple, et maintenant contre le peuple. Voilà ce qu'écrit François Ruffin.
Oui, je trouve que ce sont des propos... tellement infondé, parce qu'il s'en prend aussi à son physique. Il explique que, au fond, qu'il est trop beau. Hein, c'est ça la substance. Qu'il a un visage, une présence, et que ça le remplit de haine qu'il ne supporte pas. Il m'est arrivé, vous savez ça, de polémiquer assez fortement avec des présidents de la République.
Mmh, avec Nicolas Sarkozy notamment.
Assez fortement. Parce que je considérais qu'il conduisait le pays à une situation grave, qui allait à l'encontre même de la vocation de la France. La France, si elle a une vocation, c'est une unité. C'est un pays qui doit rassembler, rapprocher, fédérer, faire vivre ensemble, donner des raisons de vivre ensemble à tout un peuple. Et je n'étais pas en accord avec les choix de Nicolas Sarkozy quand il opposait. Bon, j'ai polémiqué, mais on polémique pas sur un physique.
Ça y est, le président de la République a, en gros, raccroché les wagons avec les Français. Ça veut dire que c'était l'essentiel de cette crise. Et que sur la politique elle-même, il n'y a pas de changement majeur à
faire.
Pas
du tout. C'est parce que vous ne m'avez pas laissé finir la phrase. Alors je vais maintenant finir mes phrases. Donc Voilà pour le président.
Ça, c'était pour Nicolas Sarkozy, oui, mais qui n'est plus là.
Voilà, non, mais en plus, moi, j'ai jamais affronté quelqu'un quand il n'est plus au sommet. Hein. Je veux bien affronter ceux qui sont au pouvoir. Je n'affronte pas ceux qui n'y sont plus. Et donc, je reviens à la question. Il y avait une donnée personnelle du président de la République. Je considère que, grâce au grand débat, qui était une opération infiniment audacieuse et juste à mes yeux,
ça va mieux.
Il a repris sa place auprès des Français. C'est pas fini, parce que je crois qu'il a en lui le potentiel pour aller pour devenir enfin le président de la République que les Français attendaient depuis longtemps. Parce que c'est vrai que son élection a été une surprise, on y a participé, tout ce que vous avez rappelé. Il demeure que l'attente des Français, elle est encore extrêmement pressante.
Et vous croyez qu'il peut faire un second mandat, le président de la République
J'entre pas dans les considérations électorales. Donc voilà, je pense qu'il a repris cette place et qu'il peut aller beaucoup plus loin. Parce que profondément en lui, il y a ce qu'il faut. Deuxièmement, il y a une contestation profonde qui n'est pas une contestation uniquement française. Il y a une contestation profonde sur le projet de société de notre pays. Les Français ont un sentiment que j'ai souvent traduit, l'idée que notre modèle de société, il est comme les autres, au service des puissances dominantes de la planète et notamment de la force du capitalisme financier. Sans frontières, sans freins, et qu'il y a dans la vocation de la France le besoin infini d'équilibrer cette puissance réelle, ô combien, du capitalisme financier par un projet qui soit un projet de justice. Un projet qui donne à chacun sa chance.
On va y revenir à la seconde partie.
Et on repartira sur cette phrase, si vous voulez bien.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Claire Crépère, enseignante, militante à l'UNSA. La semaine dernière, les députés ont inscrit dans la loi l'obligation d'afficher le drapeau européen et le drapeau français, ainsi que la Marseillaise, dans chaque classe. Ne pensez-vous pas, Monsieur Bayrou, que cette disposition est en décalage avec les besoins et les attentes des acteurs de l'école, que multiplier l'affichage des symboles de la République, c'est s'en tirer à bon compte, alors que la loi pour l'école de la confiance n'apporte rien pour réduire les inégalités scolaires qui minent la cohésion nationale et l'adhésion de tous aux valeurs de la République?
François Bayrou, sur le drapeau à l'école, vous ne vous êtes pas exprimé, dans les classes.
Non, je ne me suis pas exprimé, il y a peut-être des raisons pour lesquelles je ne m'exprime pas. J'ai jamais confondu l'amour du pays et des valeurs républicaines et les emblèmes qui sont censés le matérialiser. J'avais dit ça du temps où Ségolène Royal proposait d'inscrire dans la loi l'obligation pour toutes les familles françaises d'avoir d'avoir un drapeau qu'on accrochait. Non, c'était une obligation dans son idée. Un drapeau qu'on accrochait à la façade. J'ai jamais eu ce.
Donc vous n'êtes pas très fan de cette disposition.
J'ai jamais eu ce fétichisme-là. Alors. Dieu sait qu'il faut soutenir tout ce qui est adhésion au pays, à la France, à la République. Par exemple, je suis très content qu'on apprenne les paroles de la Marseillaise.
Ce qui était déjà le cas.
Ouais. Tous les ministres de l'éducation successifs, à commencer par moi, ont inscrit cette obligation. Et d'ailleurs, c'était le cas dans l'école de notre enfance. C'est très bien qu'on apprenne les paroles de la Marseillaise. Ça serait très bien qu'on apprenne les droits de l'homme et du citoyen.
On se retrouve dans quelques
minutes. C'est une chose inconnue, les droits de l'homme et du citoyen. Et ça mériterait pourtant un vrai travail. Quant à la multiplication des emblèmes, gens qui aiment ça l'approuveront.
Vos réticences.
voilà.
François
Bayrou. Pas des réticences, c'est un peu de distance.
On se retrouve dans quelques minutes pour votre grand jury. On parlera bien sûr des élections européennes. Restez avec nous, à tout de suite.
suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, maire de Pau, président du MoDem. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gindre de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro. François Bayrou, vous nous avez dit dans la première partie tout le bien que vous pensez d'Emmanuel Macron. Il y a eu des propos à nouveau polémiques d'Emmanuel Macron cette semaine à l'encontre des syndicats des corps intermédiaires. On écoute tout de suite le président de la République et vous réagissez juste après.
On dit aux partenaires sociaux, trouvez-nous une solution pour le chômage. Vous êtes autour de la table, vous êtes responsable. Comme c'est difficile, elles ont rendu hier au gouvernement la copie. On est dans un drôle de système tout de même, où chaque jour dans le pays, on dit corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit, bon monsieur, c'est dur, reprenez-la.
Voilà, François Bayrou, le président de la République, qui impute l'échec sur les négociations sur la réforme de l'assurance chômage aux partenaires sociaux. Est-ce que ce n'est pas aussi la démonstration que le président de la République est incapable de faire vivre ce dialogue social dans le pays auquel vous êtes attaché ?
Vous ne pouvez pas dire cela. Lorsque la demande faite aux partenaires sociaux de trouver un équilibre sur l'assurance chômage, par exemple, ce n'est pas un geste de défiance à l'égard des partenaires sociaux. J'ai lu des déclarations des responsables du MEDEF qui dit la lettre de cadrage était trop serrée.
Mais il n'est pas le seul à le dire, les syndicats aussi disent qu'on demandait plus d'un milliard d'euros d'économie par an.
Eh bien, franchement, s'ils ont des solutions, même en dehors de la lettre de cadrage, qu'ils les produisent. Je trouverais que c'est bien. Ce que je crois profondément, c'est que l'architecture des corps intermédiaires est elle aussi à reconstruire, à redessiner.
Donc vous êtes d'accord
avec on a, vous voyez bien ce qui se passe. On a des syndicats qui ont une très faible participation des salariés en particulier. Mmh. On a absolument besoin d'avoir l'organisation de cette réflexion profonde du pays. Et pour l'instant, on n'y arrive pas.
Mais ça veut dire que pas tout de suite. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à court terme, le paritarisme, il faut s'éterminer et que l'État doit reprendre
la
main ?
Non, je ne crois pas. Je pense que dans le cadre du grand débat, le président de la République doit avoir, et je crois qu'il aura un dialogue direct avec ses organisations. Et après tout, là aussi, on va tout mettre sur la table, et ça le mérite. Je reviens à la dernière phrase par laquelle on s'était promis de reprendre les choses. Il y a une inquiétude profonde de la société française, dans tous ses aspects, sur qui gouverne vraiment. Est-ce que nous avons, nous, citoyens, notre destin entre les mains ? Est-ce que nous avons les moyens de changer le monde qui vient ?
Mais est-ce que la meilleure manière d'y répondre, c'est pas de faire le référendum ?
Vous voyez bien que vous confondez les buts et les moyens.
Oui, mais c'est un moyen.
Le but du grand débat, pour moi, et je crois pour le président de la République, c'est exactement ça. C'est-à-dire redéfinir, réécrire ce qu'est le projet français. Et ne vous trompez pas. Si on fait cela, alors on s'apercevra que le projet français est très profondément différent des projets dominants
mais
sur la planète.
Mais il y aurait une cohérence, François Bayrou, à redéfinir ce projet et après à le faire valider par les Français d'un référendum.
Ceci est un moyen. Vous voyez bien que vous confondez
la politique, c'est aussi
des moyens. Vous confondez les deux.
Bien.
Mais
est-ce que sur le principe, vous êtes favorable à ce référendum ?
Il y a peut-être d'autres moyens pour que aujourd'hui les Français ne voient pas comment on va sortir du grand débat. Et les observateurs que vous êtes, pas tout à fait non plus. Moi, je crois qu'il existe un chemin. Je crois profondément. Quand je suis d'accord, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le fais
sur
entendre.
Sur le référendum, vous n'êtes pas d'accord.
Et donc, j'étais en désaccord. Vous voyez que... J'étais en désaccord violent avec l'idée. J'étais en désaccord violent avec l'idée de faire le référendum le même jour que les européennes. Pourquoi ? Parce que ça aurait dissimulé l'objectif des européennes sur un débat strictement national et qui aurait été un débat polémique.
L'idée est enterrée pour vous aujourd'hui ?
Je ne sais pas, je ne suis pas président de la République et je ne suis pas au gouvernement. Donc, posez-leur la question. Je dis mon sentiment. J'étais très contre. En revanche, le référendum, c'est un des outils qui existent pour mesurer ou pour traduire l'adhésion des Français à un projet, à des projets. à des projets de loi. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je pense que c'est une arme pour le futur. Mais on n'use pas de ces armes à la légère.
Adrien Gindre.
Le Premier ministre, il y a quelques jours, a évoqué les aides sociales qui sont données à un certain nombre de Français et les contreparties qui pourraient y être associées. On sait qu'en Alsace, par exemple, a été testée l'idée de faire travailler certaines heures par semaine ses bénéficiaires. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans cette direction ?
Premièrement, j'écarte tout à fait l'idée qu'on stigmatise les Français qui reçoivent des aides sociales. On ne reçoit pas des aides sociales par plaisir. La plupart, l'immense majorité de ceux qui reçoivent ces aides sociales, ils préféreraient avoir dans la vie une situation différente de celle qu'ils ont. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il arrive que les aides sociales soient un moyen de repousser peu à peu ceux qui les reçoivent en dehors du monde de l'activité ? Ça, c'est vrai. Ça existe. Et donc, si on peut imaginer des moyens de faire mieux participer, pas en contrepartie des aides sociales, j'aime pas cette expression, mais
c'est la stigmatisation presque vous.
Un moyen offert, je vois bien Benjamin Sportouche que vous cherchez absolument à comment dirais-je, à créer des problèmes entre le gouvernement,
entre le Premier ministre et vous, mais visiblement, il y a quelques fritures, on va dire, sur la ligne entre vous et lui.
Je ne crois pas, mais enfin bon, vous avez le droit de le penser, après tout, il faut bien aussi mettre un peu de vivacité dans tout ça. Donc je reviens au sujet. Non pas en contrepartie, mais est-ce qu'on peut imaginer une procédure qui offre à ceux qui reçoivent des aides sociales un moyen réel de se réinsérer plus vite,
mais sans contrainte, alors,
dans l'activité, dans la société, peut-être en recevant un avantage, alors je trouve que ça serait utile.
Mais ça existe
j'aime
déjà,
pas,
ça.
J'aime...
C'est pour ça que le RSI avait été créé, c'était le I d'insertion. Et ça ne marche pas.
Le RSI, c'est quand on a le I d'insertion. C'est en particulier quand...
Revenu minimum d'insertion.
Voilà.
Le RMI.
Voilà.
Qui est devenu RSA.
Qui est remplacé par le RSA, effectivement.
Voilà. On peut s'y perdre.
On a le droit de se faire des nœuds.
Oui.
Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que ça serait utile. À condition que ça ne soit pas dire, au fond, ce sont des aides que vous recevez et qui sont d'une certaine manière en trop et il faut... je pense que la question du retour à l'activité est une question essentielle. Du retour le plus rapide possible à l'activité est une question essentielle. C'est la raison pour laquelle le débat sur l'assurance chômage va être un débat très important, très intéressant. J'ai vu encore dans les jours qui viennent de s'écouler un chef d'entreprise dans le bâtiment, moyenne entreprise dans ma région. Il m'a dit: François, tu te rends compte, j'ai offert cette semaine 4 CDI à des jeunes qui me convenaient, qui cherchaient de l'emploi. Ils ont refusé les 4 parce que, au fond, leur plan, c'est de travailler pendant une période et après de profiter des aides du chômage pour aller se balader à l'aventure, etc.
Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une dégressivité des allocations chômage ?
Non, en tout cas, c'est une question qui se pose. On a bien le droit de la poser et de ne pas favoriser l'intermittence.
Mais on remarque quand même, François Bayrou, que vous posez beaucoup de questions sur la fiscalité, sur les aides sociales, sur le chômage. Vous dites, il faut remettre à plat, mais vous n'avez pas envie de donner des propositions concrètes ?
J'ai envie de donner des propositions, mais pas d'empêcher le débat de prendre son poids. Vous comprenez ? À force de répondre par des réponses de court terme, on passe complètement à côté, comme on l'a fait depuis des années. Ça fait 20 ans qu'on gouverne la France de cette manière-là. Ce que j'aime dans la situation actuelle, c'est que peut-être on va sortir de cette manière de gouverner. Peut-être on va dire oui, les aides sociales sont légitimes. Par exemple, on peut reprendre l'idée que j'ai défendu, de rassembler les aides sociales dans une aide unique à points, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve et s'y retrouve mieux. On peut reprendre l'idée, ça a été défendu dans un journal aujourd'hui même, d'un revenu universel garanti qui serait la contrepartie d'une réforme fiscale. Revenu universel garanti, en particulier pour ceux qui travaillent. Parce que vous voyez bien à quel point beaucoup de Français sont choqués de ce que, reprenant un travail, ou ayant un travail, ils ont un revenu moindre, ou en tout cas pas meilleur, que ceux autour d'eux qui bénéficient des aides sociales et pas plus. Cette situation-là, elle mérite qu'on y apporte des réponses pratiques. Parce que vous voyez bien que c'est le lien social qui se trouve alors complètement affecté.
Alors ce sera à discuter dans le grand débat, certainement, mais peut-être aussi à l'occasion des élections européennes, puisque c'est la prochaine échéance. Adrien Jeanne.
Il y aura une liste commune, La République En Marche, Modem, Agir, une alliance de personnalités, de partis favorables à l'Union européenne, tout en voulant la corriger, l'améliorer. Est-ce que vous pourriez prendre la tête de cette liste, François?
Non.
Si le président vous le demande?
Non, il ne me le demandera pas. Je pense que...
Votre nom circulait ces derniers jours.
Oui, mon nom circule, mais mon nom circule si souvent que j'ai fini de prêter attention
et
à la circulation. Parce que les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui sont incompatibles avec ce choix, sauf s'il y avait une crise gravissime. Incompatible.
Pas sur la liste du tout non plus.
Non plus. Incompatible parce que j'ai la responsabilité d'une collectivité locale que j'aime, dans laquelle on fait des choses formidables, et j'ai la responsabilité d'un mouvement politique auquel je donne beaucoup de crédit et beaucoup de force. Et donc c'est sous cette forme, par ce mouvement politique, que j'aiderai l'Europe.
Donc, ça peut être qui ?
Donc, de ce point de vue-là, c'est évident que je ne serai pas tête de liste.
Deuxièmement, La République En Marche semble avoir des difficultés à trouver sa tête de liste. Parmi les derniers noms cités, celui d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Est-ce que ça vous semble une bonne idée ?
En tout cas, je pense que le profil qui doit être cherché, c'est le profil de quelqu'un qui a à la fois de la maturité et une expérience de vie tout à fait forte.
Madame Buzyn a été médecin, donc elle répond.
Tout à fait forte. Donc,
Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires
européennes. Je ne me prononce pas sur les noms, mais vous voyez ce que j'ai comme profil.
Tout le contraire de François-Xavier Bellamy, par exemple, qui est à tête de liste des Républicains. Qu'est-ce que vous inspire ce choix ? Philosophe de formation, quelque chose qui pourrait vous
plaire. Non, mais je connais ce...
Ça vous fait sourire.
Je connais ce garçon, il a du talent pour le jeu des idées. Après, je ne suis pas sûr que sa boussole ne soit pas un peu faussée.
C'est-à-dire
Quand il a dit, il a fait une grande déclaration il y a quelques mois pour dire le mariage pour tous, ce n'est pas un changement de civilisation, c'est la fin de la civilisation. Et le mariage pour tous a été établi. Est-ce que vous avez l'impression que la civilisation est finie ? Et donc, alors c'est le privilège de la jeunesse, quelquefois, de dire des choses un peu aventurées. Mais dans le temps que nous vivons, les choses sont si lourdes et si graves qu'il faut, si possible, avoir le sens de la mesure et une qualité de jugement qui soit...
Vous pensez qu'il a trop de convictions ?
Non, je ne sais pas si c'est des convictions. Les convictions, on est plusieurs à pouvoir s'en revendiquer. Mais regardez le monde comme il est. Et puis il y a une deuxième chose qui est fondamentale et que j'ai mis, que j'ai pour ma part formalisée. Et ça a été dans ma vie quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui croient que la politique, ça consiste à faire triompher ses idées sur les autres et à les imposer. Et moi, je pense que la politique, ça consiste au contraire à faire que la société puisse accepter des idées différentes et voir le monde évoluer sans tout de suite jeter l'anathème sur ce qui se passe, c'est une grande richesse. En tout cas, on ne construira pas l'Europe si on se trompe de ce point de vue-là.
Juste.
Et donc, encore une fois, François-Xavier Bellamy, je l'ai même invité à Pau à ces journées si importantes qui s'appellent Les idées mènent le monde.
Avant qu'on revienne.
Et il est venu, bien sûr.
Avant qu'on revienne.
Et donc, c'était la traduction d'un intérêt. Mais les déclarations qui sont faites à l'emporte-pièce me paraissent risquées, parce que les citoyens, ils ont besoin qu'on leur donne des repères, vous comprenez.
Comme celle de Mme Schiappa, la secrétaire d'État, qui parle de proximité idéologique entre la manif pour tous et les terroristes islamistes.
C'est une bêtise. Elle s'en est excusée, mais vous dites qu'elle aurait mieux fait de s'abstenir.
Je dis rien, vous m'interrogez. Je dis, est-ce que cette déclaration a du sens? Elle n'a pas de sens.
Est-ce que vous nous dites que vous ne voulez pas être dans cette liste des européennes. Vous avez, votre nom a été cité dans une affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. À ce jour, François Bayrou, est-ce que vous avez été entendu par la justice? Est-ce que vous réclamez des comptes à la justice en disant
vous savez
mon
bien
nom a été cité
que non.
Alors, qu'en est-il?
Vous posez la question, la réponse est simple, non. Vous dites que mon nom a été cité, jamais il n'a été cité.
C'est ce
parce
que vous a coûté
pour la raison, pour une raison simple, justice. C'est que j'étais parlementaire européen au début des années 2000, et donc, non, mon nom n'a pas été cité.
Mais il y a une enquête judiciaire, vous demandez quoi à la justice? D'accélérer?
Je ne demande rien à la justice. En raison de mes convictions, comme vous dites, et des fonctions que j'ai exercées, je respecte la justice, et je vous dis, non, nous n'avons eu aucune nouvelle sur ce sujet.
Adrien Gindre.
Alexandre Benalla, ancien collaborateur du président de la République, a été placé en détention provisoire. Cette semaine, la commission d'enquête parlementaire a rendu son rapport. Le Premier ministre a fait le choix de s'exprimer solennellement à Matignon. Jeudi matin, il a fait une déclaration devant les caméras. Est-ce à dire que c'est une affaire d'État?
François Bayrou.
Le Premier ministre, je pense, a été choqué par la rédaction du rapport.
Vous aussi?
Alors, on va s'arrêter une seconde à la rédaction du rapport. Il y a une ligne qui est très rigolote. Pardon, qui est très drôle, dans l'introduction du rapport, le président de la commission dit « La majorité et l'opposition ont été associés à ce rapport ». Et le lecteur rapide se dit « Mais si tout le monde y est, alors ça doit être fondé ». En réalité, ce que dit le président de la commission, c'est que la majorité du Sénat de droite et l'opposition du Sénat de gauche ont naturellement été associés au rapport.
On va pas reprocher aux Républicains d'être majoritaires au Sénat.
Mais ça veut dire simplement que tous ceux qui ont été associés au rapport sont des opposants à la politique du président de la République.
Et donc ça biaise leur jugement.
De ce point de vue-là,
il aurait pu y avoir une commission d'enquête.
De ce point de vue-là,
François Bayrou,
oui, vous avez raison.
Vous auriez souhaité, elle n'a pas eu lieu.
De ce point de vue-là, il y a comme un déséquilibre. Pour le reste, vous voyez bien que ce rapport a été écrit avec une plume qui jubilait de pointer tous les accidents, insuffisances, dérives.
Vous remettez en cause
et
la sincérité.
Qui essayait aussi de mouiller d'autres responsables de l'Élysée dans cette affaire. Et cependant, je pense, je l'ai dit au président de la République, cependant, je pense qu'il faut tirer de ce rapport tout ce qui doit permettre d'améliorer le fonctionnement des institutions et de l'Élysée. Je pense, tout en ayant dit ce que je voyais de la rédaction du rapport, je pense qu'il y a des choses à en tirer. Et je pense que ce bon usage d'un document polémique, on va dire ça comme ça, est une chose utile pour nos institutions.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Alors on commence avec la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, donc peu connue du grand public, mais elle s'est fait connaître cette semaine plutôt pour une mauvaise raison. Sa voiture a été flashée à 150 km/h sur l'autoroute, alors que la vitesse était limitée à 110 en raison d'un pic de pollution. Et elle s'est défendue en expliquant qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas qu'il y avait un pic de pollution en cours. Donc excès de vitesse plus pic de pollution, eh bien les internautes ont été sans pitié avec elle. Pour Francis, c'est une pseudo-écolo. Marie refuse qu'elle vienne donner maintenant des leçons aux Français. Et Sarah, elle est en colère contre ces politiques qui ne pratiquent pas ce qu'ils prennent. Nupes. Et enfin, Cyril, lui, il va même jusqu'à demander la démission d'Emmanuel Wargon. Donc, dans des pays du nord de l'Europe, une infraction pareille aurait conduit à une démission. Pourquoi, là, ce n'est pas le cas en France ?
François Bayrou.
D'abord, je ne suis pas sûr de cette dernière phrase. Et puis, pour le reste, oui, ce sont des accidents. Ce n'est pas un crime contre l'humanité, hein. Bon, elle a fait un excès de vitesse. S'il y a un Français qui nous écoute, qui n'a jamais fait d'excès de vitesse, je lui demande de se manifester auprès du standard.
Ne pas jeter la première pierre. Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors on continue cette fois-ci avec Christophe Castaner. Il y a eu une émission au tableau qui est diffusée sur C8 où c'est des politiques qui font face à une classe, à des élèves âgés entre 8 et 12 ans. Et cette fois-ci, c'est Christophe Castaner qui a répondu à leurs questions. Et l'un des enfants lui demande pourquoi les policiers sont autorisés à tirer avec des lanceurs de balles de défense. Et donc, devant cette classe, Christophe Castaner a expliqué les zones du corps humain où les policiers ont le droit de tirer ou non. Et donc, c'est une démonstration qui a choqué plusieurs internautes. Michel trouve que c'est honteux. Il ne comprend pas qu'on aborde ce sujet devant des enfants. Estelle, elle hallucine. Elle s'emporte contre la pédagogie du Nouveau Monde. C'est comme ça qu'elle la qualifie. Et William, lui, s'étonne de voir Christophe Castaner qui ne parle pas du tout des blessures que ça peut causer, surtout lors de la manifestation, enfin des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que c'était maladroit de la part de Christophe Castaner ?
Spontanément, j'y aurais pas pensé. Pour le reste, bien sûr, les réseaux sociaux sont éruptifs. Ils traduisent avec une colère, des mots, des sentiments qui, heureusement, passent. Et il faut, oui, quand on les lit, il faut comprendre ça. Non, c'était pas. J'imagine que s'il avait à refaire, il ne le referait pas.
Une autre question qui fait réagir en ce moment même sur les réseaux sociaux, le pape qui vient de comparer les abus sexuels et des sacrifices païen, François Bayrou, c'est lors donc de ce grand colloque qui a lieu en ce moment au Vatican. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben on l'a entendu sur votre antenne à la seconde, j'écoutais d'une oreille distraite.
Le flash de 12h30.
Vous étiez sorti, mais moi j'étais là. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il vise ? Il vise l'instrumentalisation, le fait qu'on ne se rende pas compte qu'un enfant... il peut être blessé à jamais. À jamais.
L'Église a trop tardé, Jean-François Bayrou.
Comme toute institution tarde. L'Église, mais vous savez, toutes les institutions, hein, sportives, éducation nationale, toutes les institutions sont face à ce genre de dérive-là. D'autres. J'en parle avec une émotion particulière, parce que c'est ce qu'on peut faire de pire à un enfant. Et il arrive que ça ne s'efface jamais de la vie. Donc, toute justification, je l'exclus, et ce que j'imagine le pape a voulu dire, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, on peut mettre en cause à jamais la vie d'un enfant.
Une toute dernière question, Marie-Pierre, très rapidement, sur le climat.
Oui, ça concerne les lycéens qui ont manifesté vendredi pour le climat. Donc c'est le deuxième vendredi suite qu'ils font ça. Ils étaient près d'un millier à Paris. Cette mobilisation prend de plus en plus d'ampleur aussi dans d'autres pays, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Australie. Et donc au moment où la France bat des records de chaleur, est-ce que vous seriez prêt à aller manifester à leur côté ? Il y avait notamment Anne Hidalgo vendredi, la maire de Paris.
J'aime pas beaucoup les politiques qui font perpétuellement de la récupération de mouvements dont ils sont pas à l'origine.
C'est une récupération de la part d'Anne Hidalgo ?
Non, je veux pas dire les choses comme ça. Je dis que pour moi, vous m'interrogez, pour moi, je pense qu'il est plus efficace de proposer des solutions. Il est plus efficace de poser la question des recherches très importantes qu'il faut faire pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre et d'oxyde de carbone en particulier. Et de ne pas oublier de rappeler que parmi tous les pays du monde développé, le pays qui fait le plus sur ce sujet, c'est la France. Et notamment parce que sa production d'électricité, hydroélectrique d'un côté et nucléaire de l'autre, est sans aucune émission de gaz à effet de serre. Je ne dis pas sans aucune conséquence.
On arrive
conséquence.
Au terme de cette émission,
François. Et donc, ça aussi, c'est à rappeler. Mais mettre devant les consciences des lycéens le problème et les solutions possibles Et la place relative de la France dans cet immense enjeu, c'est très important.
Merci beaucoup François Bayrou, merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche, très belle semaine, à la semaine prochaine.